Je vais vous inviter à vous tourner avec moi dans Luc 22, au verset 39. On a déjà parlé dimanche dernier des paroles de Jésus sur la croix. Et c'était un peu une occasion de rappeler qu'en fait Jésus avait prêché un sermon en 7 points sur la croix. Mais là, on va faire une espèce de retour en arrière, puisqu'on est toujours dans Luc, on a encore deux, trois chapitres à terminer. On va lire ensemble à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit: priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombait à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » On parle de Gethsémané ici parce qu'en fait, le nom de ce lieu est donné dans deux autres évangiles, Matthieu 26, 36, et Marc 14, 32 parle de ce lieu et parle de ce nom, Gethsémané. Ce nom est intéressant parce qu'il signifie en fait le pressoir à olives. C'était l'endroit où on mettait les olives et qu'on les pressait pour en extraire l'huile. Aujourd'hui, nous avons encore la chance dans notre région de pouvoir voir des pressoirs à huile, souvent dans les festivals des villages, de l'arrière-pays ou même à Nice, on peut vous montrer des pressoirs à huile et on voit qu'en fait on exerce une pression terrible pour arriver à faire sortir l'huile. Nous, c'est difficile de faire sortir l'huile si on a quelques olives. On peut faire de la tapenade, mais pour faire sortir l'huile, il faut beaucoup de pression. Et c'est peut-être simplement une coïncidence ou c'est peut-être une illustration en fait, du fait que là, Jésus allait être soumis à une pression inimaginable. La pression d'accepter ce qu'il appelle cette coupe de la souffrance. Souvent la coupe dans le langage biblique, c'est ce par quoi on doit passer, c'est ce qu'on doit boire en quelque sorte. Aujourd'hui, on a encore des expressions en français, boire le calice jusqu'à la lie, c'est-à-dire boire quelque chose qui est difficile jusqu'au bout. Et là, Jésus va vraiment être soumis à une pression intense. Il est accompagné de ses disciples. Dans les autres évangiles, on peut savoir qu'il y avait ses disciples favoris, Jean et Jacques, qui étaient avec lui. Et il leur dit: priez afin de ne pas entrer en tentation. Je crois qu'au-delà de ses disciples, il nous dit à tous: priez afin de ne pas entrer en tentation. Lorsqu'on est tenté, qu'on se met à prier, si on obéit au Seigneur, c'est difficile de continuer, c'est difficile de rester dans le péché ou d'aller jusqu'au bout de nos idées ou de nos tentations. La prière est un remède contre la tentation. Et c'est tellement important qu'il va leur redire à la fin. Il est dit qu'il s'écarte d'eux d'environ un jet de pierre. Il se met à genoux et prie. La position souvent pour la prière, c'était plutôt d'être debout à l'époque. Mais là, il est accablé par le combat spirituel qu'il mène. J'aime bien la précision, il s'écarte d'environ un jet de pierre. Ça me fait penser que s'il les avait vus dormir comme un prof à l'école, vous jette un morceau de craie, si vous êtes au dernier rang, il voit que vous commencez à dormir. Il aurait très bien pu faire cela. Mais non, il va les voir et sans les reprendre, il leur dit « Mais pourquoi dormez-vous ? Continuez, soyez fermes dans la prière. » Ici, c'est noté qu'une seule fois. Dans les deux autres évangiles et même dans Jean, il est noté que ça se passe trois fois de suite. Ils sont là, ils sont dans la tristesse, Jésus leur demande de prier, ils s'éloignent, ils commencent à prier et ils tombent endormis. Là, il est dit que verset 45, ils étaient endormis de tristesse. Et c'est vrai que le chagrin peut nous épuiser, peut nous fatiguer, peut nous vider. Il faut dire aussi qu'ils avaient, c'est pas dit dans ce passage, mais ils avaient pris le repas de la Pâque et peut-être qu'ils s'assoupissaient après le repas. Mais Jésus a un combat incroyable là. C'est intéressant que l'auteur de la lettre aux Hébreux fait allusion à ce combat. Notamment dans le chapitre 5, versets 7 à 9, on va lire ensemble. C'est page 249 dans la Bible à la Colombe. Auparavant, au début de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18, il était dit « Car du fait, parlons de Jésus, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus est tenté ici, et là, dans le verset 12, verset 7 à 9 du chapitre 5, il est dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a pris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, etc. » Mais il a offert à grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus était prêt à mourir, et en même temps, on sait qu'il, dans les autres passages, qu'il dit « Père, si tu le veux, éloigne-moi de cette coupe. Est-ce qu'il y a une autre façon de sauver le monde ? Je t'en prie, je t'en supplie. » Fais-le-moi savoir et que j'évite de passer par là. Alors il y a la coupe de la souffrance physique, on en a parlé dimanche dernier, il y a cette terrible souffrance physique qui l'attend, qu'on verra plus tard encore, avec la flagellation, le sang, le dos labouré en charpie, il y a des représentations, il y a des films qui nous donne une petite idée de la souffrance physique qu'il a endurée, mais pas beaucoup de la souffrance spirituelle et émotionnelle qu'il a endurée. Imaginez que lui qui avait été de toute éternité avec Dieu le Père, dans cette parfaite union de ce qu'on appelle la Trinité, même si le mot ne figure pas dans la Bible en tant que tel, le concept d'un seul Dieu en trois personnes est partout présent. Il est co-égal avec le Père, mais en même temps, il est soumis au Père dans cette relation. Il est l'agent de la création, Jésus. Il est Dieu créateur. Il est Dieu à part entière, de même que le Saint-Esprit est Dieu à part entière. Le rôle du Saint-Esprit, on l'a rappelé en étudiant le Saint-Esprit il n'y a pas si longtemps, c'est de mettre en valeur, de mettre le projecteur sur Jésus, sur le Fils. Il y a cette incroyable union où personne ne cherche à se retirer la gloire, mais la donne à l'autre. Et d'imaginer que Jésus allait être séparé de la relation parfaite, d'intimité parfaite avec le Père, c'était quelque chose qui devait être inimaginable pour nous. Mais en même temps, devenir l'objet de l'opprobre, de la colère, de devenir péché pour nous, comme le dit Paul dans Romains 5, c'est quelque chose d'inimaginable. Et c'est pour ça qu'il était... Jusqu'à présent, il avait toujours montré un courage incroyable, Jésus. On est toujours impressionné par sa force de caractère, par sa liberté de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, d'appeler un chat, d'appeler l'hypocrisie un péché, de s'en prendre aux autorités. Et là, on le voit un peu fléchir pour la première fois. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait été tenté dans le désert, justement, il avait réagi avec la parole de Dieu. Là, il réagit avec la prière. Le diable avait quitté en promettant de le retrouver à un moment opportun. Et le diable est là. Il veut lui éviter d'aller se sacrifier. Même si le diable a orchestré tout, il est même entré dans Judas pour qu'il trahisse son maître. Et encore une fois, le diable a tellement de haine pour Jésus qu'il ne voit pas que cette haine exercée va conduire à sa propre perte. Et donc cette situation terrible, ce jardin où notre Seigneur souffre, il est en proie à l'angoisse, à l'agonie. Et il prie plus fortement, plus instamment, avec plus de ferveur. Il y a une intensité qui fait que ses capillaires, sa peau réagit physiquement. Certains disent que c'est un phénomène qui est médical, qui est connu sous l'effet d'un stress intense. Nos pores peuvent s'ouvrir et laisser passer le sang de nos capillaires. On n'a pas besoin de l'avis médical, ça aurait pu être un miracle montrant qu'il était au bout de lui-même et qu'il menait un combat de la plus forte intensité. Et là, il est tout seul au point qu'il ne peut pas compter sur ses disciples. Ses disciples, eux, se sont endormis, sont tristes et au point, et c'est seulement dans Luc qu'on le voit, qu'un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Un ange apparaît à Jésus dans cette épreuve terrible. Une façon pour le Père de lui rappeler que même s'il va être séparé de lui, il est toujours son bien-aimé jusqu'à ce qu'il devienne péché pour nous. Et là, la colère va tomber sur lui. Souvent, Dieu, dans nos épreuves, nous envoie un petit signe. Soyons sensibles à ces signes. Souvent, c'est des circonstances, c'est une personne qui peut être un envoyé, un ange, qui va vous dire une parole, qui va vous dire un mot, et qui peut vous aider dans l'épreuve. Quand on parle de toute cette souffrance de Jésus, il y a l'aspect de décrire cette souffrance pour montrer la grandeur, la profondeur, l'étendue, l'immensité de son amour pour nous. Mais il y a aussi des leçons à retirer pour savoir comment réagir devant la souffrance, devant les épreuves. Et c'est OK de dire, Seigneur, s'il te plaît, évite-moi cette souffrance. Seigneur, guéris-moi. Mais si tu ne me guéris pas, Seigneur, fais que je retire toutes les leçons. Fais que je devienne ce que tu veux que je devienne. Et c'est un aspect de la souffrance qui la rachète en quelque sorte. L'écrivain C.S. Lewis disait que, en fait, c'est un auteur anglais du début du XXe siècle qui a parlé des fondements du christianisme et de la foi et des épreuves. Et il disait qu'en fait, Jésus ne se contente pas de nous sauver, mais il nous transforme à son image. Et ça implique de la souffrance. Ça implique des épreuves. Et notre aspiration, c'est que toute notre vie soit facile, belle, porteuse de fruits. Malheureusement, le fruit, il vient par la souffrance, il vient par les épreuves. Et Dieu, dit cet auteur, il excelle à parfaire ses saints. Dans Philippiens, Paul disait que Dieu va continuer le travail qu'il a commencé en vous, il va le faire jusqu'à la perfection. Alors cette perfection ne sera peut-être pas visible de ce côté de l'éternité, mais Dieu est à l'œuvre en vous et malheureusement, il doit nous parler par la souffrance. C'est pas très gai ce que je vous dis, mais c'est en fait une des réalités profondes qui sépare la foi chrétienne de toutes les autres fois. Dieu ne cherche pas à nous plaire, il nous dit la vérité telle qu'elle est. Il nous fait savoir qu'il nous aime et que les épreuves ne sont pas toujours un signe de sa colère, mais des fois un signe de son travail en nous. Cet auteur dit « Une des fonctions majeures des hauts et des bas que nous vivons dans la vie, c'est de nous défaire de notre autonomie, de nous défaire de cette idée que j'arrive à me soutenir moi-même, que je n'ai pas besoin de l'aide de quiconque, même de l'aide de Dieu. Je suis fort, je suis en bonne santé, j'ai un bon QI, j'ai de l'énergie à revendre, je peux me débrouiller tout seul. » Et ça, c'est quelque chose qui s'oppose à notre dépendance à Dieu. Et c'est lorsque, Paul l'a si bien expliqué dans 2 Corinthiens, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, lorsque nous reconnaissons notre faiblesse. Dans notre société, admettre notre faiblesse, c'est pas cool. On veut des Sylvester Stallone, on veut des Rambo, on veut des Schwarzenegger. On ne veut pas des gens qui reconnaissent qu'ils sont faibles de par eux-mêmes et que leur force, elle vient de quelqu'un d'autre. Et Jésus, c'est ce qu'il veut nous apprendre à faire par la souffrance. Nous réalisons qu'en fait, nous ne sommes rien. Un accident est si vite arrivé. Une catastrophe est si vite arrivée. Un avion tombe si rapidement. Un médecin vous annonce une maladie grave. Toutes ces choses, ce n'est pas fait pour vous briser, c'est fait pour vous amener à la dépendance envers Jésus-Christ. Et nos amis dont je parlais sont un bon exemple de ça. Ils ont des problèmes de santé, mais ça ne les empêche pas, par la force de Christ, de se donner et de, je ne veux pas les gêner, mais de faire beaucoup plus que des personnes en bonne santé ne penseraient pouvoir faire. Et encore une fois, il se relève de sa prière, il vint vers les disciples, endormi de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. » Il le répète. Lorsque Dieu répète les choses, on devrait y prêter attention. Souvent, c'est vrai, lorsqu'on se dit, il faut choisir le meilleur moment de la journée pour prier. Pour la plupart d'entre nous, si on se met à prier juste avant de dormir le soir, à minuit, 1h du matin, ça ne va pas être une prière très intense. Et donc, on voit cet épisode de Gethsémané. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on peut aller voir un endroit qui s'appelle, qu'on pense être Gethsémané, où il y a des oliviers millénaires, peut-être pas aussi, qui remontent peut-être pas au Christ, mais tous ces oliviers ont le même ADN végétal qui montre qu'en fait, ils viennent d'un seul et même arbre. Donc on peut ramasser des noyaux d'olive ou des olives, suivant la saison, à travers la grille. On peut passer la main et se dire que c'est là que notre Seigneur a souffert cette intense bataille, qu'il a livré bataille pour nous. Et puis là, c'est l'arrestation de Jésus qui est relatée dans les quatre évangiles. Verset 47, « Comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva et que celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frappons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Tenez-vous-en là, ça suffit. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Épisode bien connu qui a inspiré beaucoup d'artistes, de peintres, qu'on voit dans les films. C'est à peu près la même période que ce qu'on a à Nice en ce moment. Il y avait... La température était relativement fraîche, surtout la nuit. Les nuits sombres, il fallait la lumière pour des torches pour voir. Ils avaient décidé, Judas avait décidé d'un stratagème avec ses chefs religieux et leurs soldats qui allaient se saisir de Jésus. C'était qu'il allait le voir directement en lui faisant un baiser, en lui donnant un baiser. C'était la façon dont les fidèles saluaient leur rabbin. Ils rencontraient la personne et ils mettaient les épaules sur une main sur l'épaule de droite et l'épaule de gauche et ils se faisaient un baiser. Alors je ne sais pas si c'était sur la bouche comme les Russes ou sur les, mais c'était un saint baiser. Et c'était une façon de montrer de l'affection, de la confiance. C'était un signe d'une relation solide et pleine de qui avait duré dans le temps, qui était bien établie, il y avait une confiance très forte. Et Jésus fait remarquer à Judas, « Tu vas me trahir, tu vas trahir le Fils de l'homme par un baiser » pour lui montrer l'hypocrisie, la triste ironie de cette hypocrisie. Et là, il utilise le terme de « Fils de l'homme ». On va voir que trois titres vont être utilisés. Le titre de Messie, les soldats se moquaient de lui en disant « Si tu es le Messie, libère-toi, ça sera plus tard ». Ils vont l'appeler le Fils de Dieu. Et tous ces termes sont des termes qui étaient connus par les Juifs comme étant des termes désignant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu qui allait régner sur le trône de David pour toujours. Donc, Jésus dit cela à Judas et les disciples, vous vous souvenez, Jésus leur avait laissé de prendre deux épées. En fait, lorsqu'il leur disait de prendre l'épée, c'était pour leur dire qu'il ne serait plus là pour les protéger. Et ça a toujours posé question parce qu'il ne leur dit pas de tendre l'autre joue, là. Mais son idée, ce n'est pas de combattre contre une petite escouade armée. C'était des pêcheurs pour certains, ce n'étaient pas des militaires, des collecteurs d'impôts. Ils ne savaient pas manier l'épée spécialement. Et il y a un petit épisode au verset 50, quand on regarde les autres évangiles, on sait que le serviteur, l'un d'eux, c'était Pierre lui-même. Pierre qui était toujours l'apôtre impétueux, celui qui voulait toujours prendre les choses en main, qui était plein d'une confiance en lui qui le rendait peu utilisable par le Seigneur. Et là, on va voir aussi les épreuves que subit Pierre, que va subir Pierre. C'est pour le parfaire, c'est pour parfaire sa capacité à être utilisé par Dieu. Et on a même le nom de cet homme, le serviteur du souverain, du grand prêtre, c'était Malchus, dont le nom signifie le roi. Je ne sais pas, je me demande s'il n'y a pas une allusion là au fait que les disciples n'arrivent pas à tuer le roi, mais le roi va être mis à mort par des hommes ingrats, pleins de péchés. Une autre précision qui est intéressante aussi, c'est qu'à l'époque, les hommes n'étaient pas... Si quelqu'un était naturellement gaucher, on faisait tout pour corriger et faire qu'il utilise sa main droite. Ce qui se passait dans les écoles encore de nous, il n'y a pas si longtemps, on ne voulait pas que les gens soient gauchers. Ce qui veut dire qu'en tant qu'adulte, Pierre était droitier. Et on nous dit dans un autre évangile que c'est l'oreille droite qu'il a coupée. Alors ça veut dire que c'est difficile d'imaginer qu'il avait la tête là, il a coupé l'oreille droite là. Et plus vraisemblablement, il l'a coupée du même côté, de son côté droit. Ce qui veut dire qu'en fait, il l'a attaqué par derrière. Ce qui ne serait pas surprenant avec Pierre. C'est juste ce genre de pensée que les commentateurs aiment bien développer pour parler du caractère de Pierre. Encore une fois, c'est pour montrer qu'il avait besoin d'être perfectionné, parfait, au sens d'être devenu l'objet d'une perfection par Jésus. Et Jésus, encore une fois, on a chanté ce très beau chant qui décrira l'éclat de ta beauté. J'étais touché parce qu'en fait, Tonio devait avoir 4 ou 5 ans quand on avait vu à Seattle, quand on habitait là-bas, la chanteuse qui avait créé ce chant. Et c'était un chant merveilleux. Et quand il est question de beauté ici, c'est surtout la beauté spirituelle, la beauté morale, parce que le prophète Ésaïe nous dit qu'il n'y avait rien de spécial dans sa contenance, dans sa façon de paraître. C'est pour ça qu'on n'a pas dit « vous prendrez le beau blond, le grand blond, à qui tout réussit », pour parler comme Gad Elmaleh. Non, il a fallu qu'on le désigne, il a fallu un stratagème, et c'est par ce baiser de Judas qui restait dans le langage pour dire une trahison terrible. Il a vraiment trahi. On va voir que Pierre va... On y arrive. Il leur dit, vous êtes... Jésus s'en prend à toute l'escouade qui arrive, les prêtres, les chefs des gardes du temple, les anciens qui étaient venus contre lui. Il leur dit, vous venez me chercher comme un brigand alors que je prêchais devant le temple, je prêchais dans les synagogues. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais mis la main sur moi? Histoire de dire qu'ils n'ont pas le courage de faire leurs actes au grand jour. Ils prennent le couvert de la nuit pour réaliser ce déni de justice, on va le voir, on en parlera, et de mettre à mort celui qui venait bouleverser l'ordre établi, l'ordre religieux établi, qui les appelait des hypocrites, qui avaient de la haine pour eux parce qu'ils mettaient une barrière entre les hommes et Dieu. Et ça, c'est toujours une grave responsabilité. J'ai eu un appel d'un ami que j'ai pas vu depuis 25 ans, qui m'annonçait que sa maman était décédée. Je lui demandais des nouvelles et il me disait « Oui, j'ai une sœur qui est devenue intégriste dans sa foi et elle veut que tout le monde se convertisse. » Et alors moi, ça m'a complètement bloqué. Je ne veux rien avoir à faire. En plus, sa façon de vivre n'est pas un exemple. Elle est pleine de ressentiments, elle n'est pas facile à vivre. Et en fait, je priais pour cette femme parce que par sa vie, elle fait un obstacle à l'approche de Jésus dans la vie de cet ami, que j'espère revoir bientôt, qui, je le sens, est interrogé par mon engagement personnel. On s'est connus, on n'était pas du tout... j'étais pas chrétien, élevé catholique, mais j'avais perdu la foi. Et ne vous mettez pas en travers de la route de ceux qui sont, de ceux que vous côtoyez et de Jésus. C'est une chose terrible que de faire ça. Et puis il dit, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Le mot pouvoir ici, c'est le mot, ce serait mieux traduit par le mot autorité. C'est l'autorité des ténèbres. Autrement dit, votre autorité n'existe pas. C'est sous couvert de noir et ça peut être juste inspiré par le malin et ses anges des ténèbres. Il y a une différence entre pouvoir et autorité. Des fois, on pense que c'est la même chose. J'ai peut-être le pouvoir de flanquer une correction à votre fils qui est désobéissant, qui crée la panique, qui fait les 400 coups. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai l'autorité de le faire. Et c'est très bien que je... Et si je faisais ça, vous pourriez m'accuser en justice et vous me traîner en justice. On peut avoir le pouvoir, la capacité, mais pas l'autorisation ou le droit de faire les choses. Ici, c'est l'autorité des ténèbres. C'est les ténèbres dans la nuit, des mauvaises choses se passent. Les ténèbres peuvent se saisir de moi. Ce qu'ils font, verset 54... Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec eux, avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là ? » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en suis pas !» Après un intervalle d'environ une heure, un autre encore insistait, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, « Tu me renieras trois fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Le fameux reniement de Pierre, on vous a tous dit qu'il ne faut jamais suivre Jésus de loin. C'est vrai que c'est dangereux. Là, il était... Mais il était, à sa décharge, il était un des seuls qui suivait Jésus. Les autres avaient pris la fuite, ayant peur qu'on fasse de même avec eux, qu'on les emprisonne, qu'on les juge et qu'on les tue. Et là, à trois reprises, il va renier Jésus. Il va renier Jésus trois fois. Et je ne sais pas aussi si le fait qu'ils ont... Jésus l'avait prédit. Dans le jardin, ils ont renié Jésus en ne priant pas. Et à trois reprises, ils ont dû être corrigés par Jésus. Et là, cet épisode terrible où, lorsqu'il entend le chant du coq, d'un seul coup, Pierre se rappelle ce que Dieu lui a dit, ce que Jésus lui a dit. C'était dans Luc 22, chapitre 34, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Et là, encore une fois, Pierre était plein de confiance. Vous vous souvenez, il avait dit que moi, je ne te laisserai pas tout seul. Jésus lui avait dit qu'il avait dû prier parce que Satan voulait le passer au crible comme le blé. Mais Pierre était toujours dans sa confiance en lui-même, dans son indépendance. Et il va jusqu'au bout de cette terrible épreuve de renier Jésus 3 fois et d'un seul coup, il est dit qu'il pleure amèrement. Alors il peut avoir pleuré parce que son orgueil avait été brisé, mais je crois qu'il était, sincèrement plein d'amour pour Jésus. Il s'en voulait de l'avoir laissé tomber 3 fois de la sorte, avec véhémence, c'est le mot, pas violence, mais véhémence. Et c'est à partir de là que Pierre va être un autre homme. Lorsqu'il va voir Jésus, Jésus ressuscité va envoyer quelqu'un parler à Pierre directement. Et puis il y aura ce fameux épisode dans Jean où Jésus va demander à Pierre s'il l'aime, l'aime de façon forte ou de façon sacrificielle. Et Jésus va lui dire, va le prouver en servant mes brebis. Le dernier petit épisode dans ce récit du chapitre 22, on va le lire. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant leur sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si je vous interroge, vous ne répondrez point. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Là, il n'est pas question de l'autorité des ténèbres, il est question de la puissance de Dieu. C'était une façon de parler de Dieu le Père sans prononcer son nom. Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Ils sont arrivés à le faire prononcer ce qu'ils considèrent être un blasphème et qui les autorise à demander sa mort aux autorités romaines. On est frappé par la méchanceté de l'homme quelquefois. On est frappé des fois par la méchanceté des enfants envers eux-mêmes. Je me souviens, pour ne pas pointer le doigt vers les autres, mais aussi me mettre dans le lot, j'avais un bon ami et qu'un jour, un maître d'école, ça devait être en CP deuxième année, cours élémentaire première année, même deuxième année, je dois l'avouer, j'étais déjà plus grand que ça. Le professeur avait demandé si quelqu'un avait une règle en bois pour frapper les doigts de cet élève qui avait fait des bêtises. Et j'avais été le premier à dire « Moi, maître, moi, monsieur, moi, monsieur !» Il m'a fallu plusieurs années pour réaliser en fait que peu importait la souffrance de mon ami, qui me l'avait plus ou moins pardonné, je crois, Dieu merci, mais j'étais plus préoccupé de plaire au maître que d'épargner la souffrance à mon ami. Alors le maître, ce n'est pas une allusion à Jésus. C'est toujours bien de boyer au maître parce qu'il ne vous demandera jamais de vous donner une baguette pour frapper quelqu'un. Jésus est frappé et il lui voile le visage et il le frappe. Et on dit, pour ceux qui ont fait de la boxe peut-être, s'il y en a parmi nous, je ne sais pas, c'est notre corps peut anticiper les coups, les muscles peuvent réagir, la position peut faire qu'on amortit les coups qu'on voit venir, mais quand on ne sait pas d'où ils viennent, on peut être complètement blessé et avoir vraiment des accidents, beaucoup de mal, beaucoup de douleur, des os brisés. Et donc il le frappe ainsi en se moquant de lui, en disant « Devine qui t'a frappé ». Il lui demande d'être le prophète qu'il condamnait avant. Et puis il est emmené, les autres récits nous disent qu'il est emmené devant à la maison du grand prêtre. Il y avait une espèce de duo, il y avait Anne, l'ancien grand prêtre, qui avait été mis de côté pour des raisons politiques, je crois, et son beau-fils, Caïphe, était devenu le grand prêtre. Et là, les autres récits nous disent que la nuit, bien que ce soit complètement illégal, ils ont essayé de faire comparaître Jésus pour le condamner. Et quand on va à Jérusalem aussi, on peut voir une maison du grand prêtre. On pense que c'est la maison où Jésus a été jugé. On peut descendre dans des souterrains, à la cave en quelque sorte, et voir là l'endroit où Jésus a dû être isolé. Et le psaume 88 décrit cette souffrance de Jésus. Quand on va voir cet endroit, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous le laisse lire. C'est un psaume messianique et il n'y a rien de plus émouvant que d'être dans le lieu même où ce psaume s'est accompli. On n'est jamais exactement sûr des endroits historiques, mais là il y a vraiment une forte présomption que c'est le lieu même, ça correspond à... beaucoup de détails, et je vous laisse le lire. Et il leur demande, les chefs lui demandent s'il est le Christ, et ils leur disent: vous avez déjà décidé que vous voulez me mettre à mort, donc si je vous réponds ça ne servira à rien. Mais il leur dit: le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Autrement dit, vous... c'est pas son esprit, mais c'est un peu l'idée: rira bien qui rira le dernier. Vous me jugez, vous allez me condamner, mais quand ce que vous jugez Jésus, c'est pas lui que vous jugez, c'est Jésus qui vous juge. C'est un peu comme des amateurs d'art lorsqu'ils vont voir un tableau de Rembrandt, un chef-d'œuvre reconnu par 95% des gens qui s'y connaissent, et qui disent: je n'aime pas ce tableau. Quelqu'un faisait remarquer que lorsqu'on critique un chef-d'œuvre, ce n'est pas le chef-d'œuvre qu'on critique, c'est la personne qui critique qui est jugée. Pour dire que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a des très mauvais goûts, qui ne comprend pas l'art, qui ne comprend pas la beauté de quelque chose qui est évident. Et il leur dit: le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et là, tout ce qu'ils retiennent, c'est: tu es donc le Fils de Dieu. Et il y a cette croissance, il y a ces trois termes: le Christ, versets 67 et 68, le Fils de l'homme, versets 69, et puis là, le Fils de Dieu. Parce que Jésus est à la fois parfaitement homme, parfaitement Dieu, et c'est pour ça que son sacrifice va pouvoir nous racheter. Un seul homme, avec une perfection infini, peut racheter toute l'humanité. Un seul homme avec une perfection abolie, Adam, avait permis à toute l'humanité d'être sous le coup du péché, de la mort éternelle. Jésus va continuer de de souffrir dans cette passion, ce qu'on appelle cette passion, cette souffrance, c'est le mot pathos. On connaît l'histoire pour la plupart de nous. On la répète à Pâques chaque année et on peut des fois s'endurcir le cœur et ne plus lire ces passages avec l'émerveillement ou l'incompréhension émerveillée qui devrait nous habiter. Prions encore une fois pour que, lorsque nous lisons la parole, nous puissions la lire et réagir comme si c'était la première fois qu'on la lit. Et donc, les choses vont s'accélérer, cette admission de sa divinité. Encore une fois, lorsque les sectes vous disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, vous leur direz qu'ils n'ont jamais lu la Bible. C'est tellement évident qu'il déclare. Ils ont bien compris, ils connaissaient la parole, ils connaissaient l'hébreu, ils connaissaient le grec. Et ils réalisent qu'en fait, il est le Fils de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce sacrifice, merci pour ce long chemin de souffrance, cette voie de douleur, comme certains l'ont appelé, Seigneur. Et nous insistons souvent sur la douleur physique qui était terrible. Seigneur, c'est nulle part dans le monde, il n'est légal d'exécuter les gens par le sacrifice de la croix. Tu l'avais prophétisé des centaines d'années plus tôt. David l'avait prophétisé dans le psaume 22 notamment. Et tu as permis que ce mode d'exécution soit en place et tu es allé jusqu'à la mort, Seigneur. Tu t'es humilié jusqu'au point de mourir pour nous. Pardonne-nous lorsque nous ne réalisons pas l'immensité de l'amour derrière ce sacrifice immense, Seigneur. Parle de nos cœurs, touche-nous, Seigneur. Aide-nous à jamais te renier, Seigneur, lorsque nous sommes pris à partie. Nous te demandons de fortifier nos frères et sœurs dans l'Église persécutée de par le monde qui ont la grande tentation de te renier pour avoir leur vie sauve. On te demande de les fortifier, d'être présents, de briller par eux, Seigneur. Qu'ils puissent être vraiment des témoins jusqu'au bout, Seigneur, des martyrs, Seigneur. Et aide-nous à avoir le courage de dire que nous croyons en toi, Seigneur, à ceux qui nous entourent, de donner les raisons pour lesquelles nous croyons en toi, Seigneur. Les raisons pour lesquelles il ferait bien aussi de croire en toi, Seigneur. Donne-nous l'audace, le courage de témoigner de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit et aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber en tentation, mais à prier. Seigneur, souvent les réunions de prière sont les réunions les plus petites dans l'Église, Seigneur, parce que nous n'avons rien compris, Seigneur. Aide-nous chacun, Seigneur, aussi à être en prière personnellement, Seigneur, tous les jours. Et dans une attitude de prière tout au long de la journée, d'accepter les épreuves qui viennent comme venant de ta bonne main pour notre bien, Seigneur. Sois glorifié, nous te le demandons, Seigneur, dans nos vies, à travers nos vies, Seigneur, malgré nos vies, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions.